Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne, bonjour tout le monde. Citoyennes, citoyens, bonjour. Je suis extrêmement républicain. Alors,
c'est bien Dominique.
Oui. Il y a quelque chose dont on a peu parlé, et je voudrais souligner ici. C'est très étonnant, on a eu une manifestation, une mise en relief des égos absolument formidable ces temps-ci, notamment l'égo de M. Mélenchon, c'est absolument formidable. Il doit regretter amèrement de ne pas être député, de ne pas s'être présenté aux législatives, de ne pas être député.
Et pourquoi il ne l'a pas fait?
Ben parce qu'il voyait déjà que la France insoumise et plus globalement la NUP ferait un tel résultat qu'on ne pourrait pas le contourner et qu'il serait donc Premier ministre. Il avait, faut pas croire qu'il n'y croyait pas. Ça, c'est pas vrai. Il y a cru. Il y a cru. Alors, il ne s'est pas présenté aux législatives en pensant que peut-être, même si son groupe, la NUP, n'avait pas la majorité, il aurait une importance bien plus considérable que celle qu'il n'a aujourd'hui.
Mais il va peut-être avoir un ministère, non ?
Non, je ne pense pas.
Et alors, on peut espérer quand même.
Il s'est précipité, vous savez, dès le lendemain, sur le trottoir du siège de la France insoumise et aux journalistes, il a confié qu'il serait souhaitable, selon lui, que la NUP ne fasse qu'un seul groupe parlementaire à l'Assemblée, alors qu'il paraît que dans leurs accords préalables, il était prévu que les formations aient chacune un groupe, communiste, écologique, socialiste, la France insoumise, et qu'ils forment éventuellement, et qui forme un intergroupe. Et dans cet intergroupe, il pourrait inviter M. Mélenchon, personne extérieure, à participer. Mais ça ne lui suffisait pas. Alors, il voulait qu'il y ait un groupe, un seul groupe, avec dans l'idée que s'il y avait qu'un seul groupe, il serait évidemment la formation la plus importante de l'opposition et que de ce fait tomberait dans son escarcelle la commission des finances, la présidence de la commission des finances. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça peut marcher finalement. Voilà. Donc et les autres ont dit non. Les autres ont dit non. Mais d'emblée, il se voulait le duce, le chef, le leader, le Fidel Castro de ça. Il arrive sur le trottoir sans avoir consulté les autres. Il dit voilà, il faudrait faire comme ça. Et je pense que ça va durer. Et le lendemain, on pensait qu'il avait, je pensais moi, qu'il avait quand même compris qu'il n'y était pas, qu'il n'y serait pas. Et que les absents ayant toujours tort, il aurait tort de ne pas y être. Et là, c'est lui qui a fait la visite guidée, ma chère Fabienne, à l'Assemblée nationale de son groupe La France Insoumise. On le voit debout, dans les travées, les autres étant plus bas que lui, et il leur expliquait l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à admettre qu'il n'est plus chef, et il ne va plus l'être, puisque comme il va y avoir quatre groupes, chacun de ces groupes va avoir un président de groupe, ces présidents de groupe vont avoir de l'ambition, ce qui est bien naturel, et tous vont penser un peu à leur groupe, j'allais dire à leur gamelle, c'est très 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 méprisant de dire ça, parce que c'est pas ça, à leur groupe, et peut-être bien à travers ces groupes, à un destin personnel. On ne va pas me faire croire que des gens, y compris dans la France insoumise, n'aient pas un œil sur 2017. Donc, monsieur Mélenchon...
2017, non.
2027. Oh là, 2027.
On sera jeunis, Dominique.
Oui, monsieur Mélenchon a peut-être commis son erreur politique.
C'est pas une histoire d'argent, par hasard?
Ben, il y a aussi ça, de fonds pour
le fonctionnement. Si par exemple il gardait le groupe NUPES,
oui.
NUPES,
oui.
Toutes les voix électorales qu'ils ont eues, toutes les législatives, etc., est-ce que ça reviendrait dans ce mouvement?
Oui.
Voilà.
Oui, mais après il y a une mutualisation qui se serait faite au prorata du nombre de voix. Donc, mais probablement c'est plus intéressant, y compris sur le plan du financement, d'avoir quatre groupes qu'un seul. En tout cas, il y a une chose, un certain nombre de choses, et non des moindres, pour lesquelles c'est plus intéressant, c'est le temps de parole. C'est-à-dire que chaque groupe aura le temps de parole. Donc il y aura quatre tant de paroles au lieu que d'un seul. Enfin, voilà.
Alors, est-ce que chaque électeur qui a voté pour la NUPES, est-ce qu'ils savent pour quel groupe ils ont voté, en fait ?
Ben, je pense que dans les circonscriptions, ils le savent. Parce que je pense que sur les affiches, nous, on savait, par exemple, qu'ici, certaines circonscriptions, que la candidate de la NUPES était membre du Parti communiste. Donc, on savait qu'on votait pour... les gens qui ont voté pour cette personne savaient qu'elle était membre du Parti communiste. Donc, je pense que c'est comme ça que les choses vont se répartir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que M. Mélenchon a subi quelque chose qui doit le égratigner un peu son ego, qui n'est pas mince. Et puis, il y a surtout l'ego de M. Macron. Il y a un phénomène auquel on n'a pas fait attention. Je n'ai pas entendu qu'on en ait beaucoup parlé. Mais je m'intéressais à ça. Et je dis, M. Macron, avec ce deuxième tour des élections présidentielles, qui sont une catastrophe pour lui, qui sont un revers. Tous les titres ont été donnés. Claque, déroute, Bérésina, enfin, humiliation et tout ça. Je regardais ça d'assez près. Eh bien, c'est la première fois, non seulement en politique, mais dans sa vie même, que M. Macron subit un véritable échec. Jusqu'à présent, tout a été succès pour lui. Depuis l'école.
Il a dû faire une petite crise de nerfs, il a dû taper du pied.
Oui, depuis l'école, y compris au théâtre à l'école avec madame son épouse, sa future épouse, les études, n'en parlons pas. Secrétariat de Paul Ricoeur, excusez du peu, la Banque Rothschild, où on disait, vous rendez compte, le Mozart de l'économie, après le gouvernement, l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée, le gouvernement, la rupture avec Hollande, tout ça fonctionne à merveille. Il se présente aux élections pour la première fois de sa vie. Quand je dis aux élections, c'est aussi bien élections cantonales, régionales, communales. Il se présente pour la première fois, il est élu. Après ça, il est réélu. Voilà, donc tout a parfaitement fonctionné pour lui. Il n'a eu que des succès. Et cette personnalité dont on a dit dès le début, je me souviens très bien que c'est une personnalité narcissique, c'est l'évidence même, se trouve confronté à son véritable échec. Pour la première fois, son miroir ne va pas lui renvoyer l'image qu'il est habitué à voir de lui. Donc ça doit être extrêmement difficile, mentalement pour lui, psychologiquement pour lui. D'où ce silence. Enfin, à l'heure où nous parlons, il n'a toujours pas parlé. C'est très étonnant qu'il n'ait pas parlé, qu'il n'ait pas éprouvé le besoin de dire aux Français comment il avait analysé, vécu, subi ce deuxième tour des élections législatives et indiqué, si peu que ce soit, une marche à suivre, une route, une feuille de route, hein, une perspective. Il n'a pas éprouvé de le faire. J'ai regardé, quand c'est arrivé à M. Mitterrand et à M. Chirac, M. Mitterrand, dès le lundi soir, avait pris la parole, et M. Chirac, dès le dimanche soir, avait pris la parole. Ils avaient acté, comme on dit, la défaite, si vous voulez. Ils avaient compris que le peuple de France avait besoin de les entendre là-dessus, de savoir exactement dans quel état ils étaient, à la fois psychologique, politique, enfin, vous voyez, c'était faire preuve d'une espèce de respect, d'attention et de souci de restituer la situation au peuple français. Et bien lui, pourquoi ils arrivaient à faire ça? Parce que ces gens-là dont je parle, M. Mitterrand et M. Chirac, sont arrivés à la présidence de la République, après une vie politique très, très, très mouvementée, des échecs, avec M. Mitterrand, l'affaire de l'Observatoire, enfin, toutes ces choses-là. Tous ces présidents-là s'étaient présentés plusieurs fois au présidentiel, et puis même dans leur vie de parcours politique de parlementaires et autres, ils avaient subi des échecs. Donc, ils savaient ce que c'était. Un politicien expérimenté, c'est un politicien qui a subi des échecs. Et c'est probablement ce qui manque dans la caractérologie, pour employer un terme qui est peut-être pas dire grand-chose, à Monsieur Macron. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression, depuis dimanche soir, qu'il ne savait plus véritablement comment prendre les choses.
Moi, je crois qu'il est parti en vacances.
Non, il essaie probablement, avec plein de bonne volonté. Mais
moi, j'ai un de ses proches, il m'a dit qu'il faisait un déni.
Oui,
un
c'est
déni
ça.
Total.
C'est normal. Le narcissique ne veut pas accepter la mauvaise image que lui renvoie son miroir. Donc, c'est le miroir qui déconne. C'est le miroir qui n'est pas bon. Donc, il est dans le refus d'affronter cette réalité et la gravité de cette réalité. Et c'est très étonnant. À mon avis, il vit un moment humainement douloureux.
Est-ce qu'il pourrait démissionner ?
Il est pétri d'orgueil tel qu'il est, mais l'orgueil, c'est pas forcément un défaut. Il doit pouvoir l'envisager, de dire je claque la porte. Il ne me mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire tellement ce côté supérieur. En fait, ce qui paie là dans ces élections, ce que le peuple français, beaucoup d'électeurs ont voulu lui dire, c'est on ne veut pas qu'il ait la majorité absolue parce que son arrogance, sa suffisance, ça suffit. Les gens, je pense que même dans un coin de leur cerveau très lointain, ils ont gardé les images, vous savez, du débat Le Pen du deuxième tour, avec ses attitudes, le menton sur le coude, en ayant l'air de s'ennuyer, en regardant Madame Le Pen ou en ne la regardant pas. Et quand il la regardait, c'était l'air de dire « Mais ma pauvre cruche, qu'est-ce que tu dis ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Laisse enfin parler l'intelligence quand je pourrais m'exprimer. » Il y avait une forme de mépris. Et je pense que ces choses-là, ça reste. Et puis cette espèce de façon de n'être pas là pendant les trois semaines là qui vient. Il a jamais été là. Il a s'est adressé aux Français avant de monter dans un avion. C'est très très symbolique ça. Dire bah, attendez, moi je me casse, je m'occupe de la guerre. C'est un peu plus important que vos conneries d'élections législatives. Il y a Madame Borne qui vient s'en occuper. À propos de Madame Borne, pour les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui sont sensibles à cela. Vous vous rendez compte que là, une certaine forme de la Macronie a trouvé ses limites avec Madame Borne. Trouver des limites avec Madame Borne. Les mots ont un sens. Les mots amènent quelque chose. Vous ne trouvez pas ça amusant ? Amusant, entre guillemets, c'est plus qu'amusant. C'est peut-être même lourd de sens que les limites soient arrivées avec quelqu'un qu'on a nommé et qui s'appelait Madame Borne. Voilà. Mais je vous assure, il y a des gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Et je l'espère au moins, et tout le monde ne va pas considérer comme Fabienne Brasseur que je suis complètement dingue et que j'arrive à 6h15 du matin en ayant fumé 3 pétards.
Non, mais il ne faut pas dépasser les bornes, hein, ouais, Dominique.
Non, mais je trouve que c'est intéressant. Alors,
est-ce qu'on peut se faire une pause, Dominique ?
Oui, on peut faire une pause, oui, bien sûr.